France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux-Nativelle, cette semaine avec...
Jean-Paul Dubois qui continue à écrire.
Troisième épisode, parfois j'écris tout seul. Premier volet, le cas Dubois. Bonsoir Jean-Paul Dubois.
Bonsoir.
Vous nous recevez à nouveau dans votre maison de Toulouse. Hier, vous nous avez parlé du journalisme que vous avez pratiqué à Sud-Ouest, au Matin de Paris et au Nouvel Observateur. C'est en 1984, à 34 ans, que vous entrez à l'Obs et que vous écrivez votre premier livre. Y a-t-il un lien entre les deux ?
Non, il n'y a pas de lien. Sinon que peut-être, mais... Non, je pense pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de lien. C'est le hasard, là.
Et c'est un pari avec vous-même qui motive l'écriture de ce premier livre, compte-rendu analytique d'un sentiment désordonné.
Compte-rendu analytique d'un sentiment désordonné, c'est un titre génial. C'est un truc dont je suis extrêmement... C'est le seul truc dont je sois extrêmement fier.
Vous avez raison d'en être fier, il est très beau.
Il est absurde. Mais c'est bien. Ça, c'est un pari fait avec... Vian, et j'irai cracher sur vos tombes, qu'il avait écrit, je crois, en 24 jours. Et je me suis dit, je vais essayer d'en faire un, en moins de jours que lui, faire une course avec lui. Je l'ai fait, avec une machine à écrire, Japy, rouge, au soleil, au mois de juin, en 28 jours. J'ai perdu 28 ou 29. J'ai perdu de 4 ou 5 jours. C'est un livre. J'ai réussi à ce qu'il ne soit jamais réédité. J'espère que ça continuera comme ça. C'est un livre sur un tueur en série. Un truc complètement insensé. Et je me suis rendu compte que donc écrire, ben, c'était pas un truc si difficile que ça. C'était... toujours avec la trouille, bien sûr, mais si on s'y mettait... alors là, j'ai compris aussi comment il fallait travailler. C'était un changement de programme total, c'est-à-dire 9-10 heures le matin, 3-4 heures du matin. Voilà. Et non-stop. Pas de distraction, pas de sortie, pas de vélo, pas de sport. Rien, le livre. Relire le matin ce qu'on a fait la veille... corriger au fur et à mesure, et pour ne pas y revenir. Je ne sais pas si ça marche, mais c'était comme ça. Et j'y suis arrivé, je l'ai envoyé à tous les éditeurs, je crois, de Paris, et tous m'ont expliqué que j'étais un type sans doute charmant, mais que la littérature n'était pas faite pour moi, sauf les éditions du Fleuve Noir, qui m'ont dit « il n'y a aucun problème, on vous envoie... les épreuves dans un mois, et alors là, je n'en revenais pas. Et quand j'ai vu la couverture, moi je m'attendais, un vrai livre, quoi. Je me suis retrouvé avec un livre de poche, qui est aussi un vrai livre, mais avec une couverture. Oh, c'était un truc, ça faisait peur, ça faisait mal aux dents, c'était les couleurs, c'est un mec de dos dans la pénombre, dont on devinait qu'il avait quelque chose dans la main, mais on savait pas quoi. On aurait dit Humphrey Bogart de dos. Enfin bon, ça ne ressemblait à rien, quoi. J'étais super vexé. Parce que je m'attendais à un livre avec une couverture normale, pas Gallimard, mais presque, ça valait ça, pas mes yeux. Surtout avec le titre, avec un titre pareil. Et alors j'ai un de mes potes qui va l'acheter, elle est dans une librairie, et il dit, je voudrais un livre, c'est quoi? Ça s'appelle Compte-rendu analytique, un sentiment désordonné. Et là, je vous jure que c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Le libraire lui répond, voyez au rayon sciences humaines. Et là, j'ai compris que, bon, c'était un livre perdu pour la postérité. Ensuite, arrive un éditeur, qui, lisant un article que j'ai fait en l'Observateur, me propose de faire un livre sur les gauchers. Bah, je dis, tu rigoles ou quoi? Je ferai jamais ça, fais chier, je ferai pas ça. Et puis il me dit, si, c'est bon, c'est un truc, super sujet, c'est vraiment un livre intéressant. Je dis, non, je ne fais pas. Et il revient à la charge 4-5 fois. Et au bout du compte, je le fais. Je reprends la japie, je me mets au boulot, c'était fin du printemps, début de l'été. Je lui envoie, toujours pareil, à moi, je lui envoie le truc, il l'édite pendant l'été, et il sort le 3 ou le 4 septembre. Et le 5 septembre, Bernard Pivot téléphone, on voudrait inviter votre auteur à Apostrophe. Vous imaginez le truc, quoi. Cette histoire a une suite, c'est que quand j'ai eu le Goncourt, Bernard Pivot était président du Goncourt, et quand je suis arrivé dans cet endroit où j'étais aussi à l'aise que la Calas au milieu d'une tournée de punk, il me fait un petit signe, comme ça. Il me fait venir près de lui, en nous isolant. Il sort son téléphone, il fait venir une image, et je vois le générique d'Apostrophe, et je nous vois tous les deux, 30 ans auparavant. Ah, j'en avais les larmes aux yeux. Ce mec-là, il m'a cassé ce jour-là. Mais j'étais ému. Et depuis ce jour-là, on a eu une correspondance très, très touchante.
Alors pour les auditeurs, effectivement, on peut trouver cette archive de Lina en ligne. Cet extrait de
l'émission. Mais lui, il l'avait sur son téléphone ce jour-là. Ce qui est la douceur du geste, quoi. Voilà, donc... Et ce livre a été une explosion. C'est-à-dire, je sais pas, il a atteint des ventes, c'était mirobolant, mais un énorme truc. Et donc, ça, c'était avec mon premier éditeur, qui s'appelait Vincent Landel, qui était un génial fou furieux, un type adorable, tout, que j'aimais beaucoup. Et puis, on va faire plusieurs livres comme ça.
Avec toujours... un rituel, une façon d'écrire bien spécifique.
Pareil, 30. Jamais, j'ai jamais fait dessus. J'ai jamais fait un livre de plus de 31 jours, excepté Une vie française, parce qu'il y avait 600 et quelques pages à l'époque, et ça a fait 2 mois et 3 jours. Toujours pareil. Même rythme, même travail. Et un jour, je sais pas, c'était au 3e livre, je crois, avec Vincent, je vois arriver dans ma première maison, enfin la maison que j'ai bâti, je vois arriver un camion. Mais monsieur, j'ai un colis pour vous. Je lui dis, ouais, c'est quoi? Ah, mais si, je n'ai pas le droit de vous le dire. Je lui dis, moi, si vous n'avez pas le droit de me le dire, moi, je n'ai pas le droit de l'accepter. Donc, ah, il m'avait dit, on m'avait prévenu que vous étiez un chieur. Je lui dis, moi, je suis un chieur peut-être, mais c'est un truc énorme que vous me présentez. C'est une caisse en bois, je ne sais pas ce que c'est. Je vois 400 kilos. Moi, je prends pas ça chez moi si je sais pas ce que c'est. Alors, il prend le truc, il ouvre une planche, il me dit, venez voir. Et là, je vois un tracteur qui est dans la cabane de jardin, là-bas, toujours là. Et c'était Vincent qui m'avait offert une tondeuse, un tracteur, un gros tracteur, qu'il avait fait venir du Texas, avec un mot... aux entêtes de Brig & Stratton. Brig & Stratton est le fabricant de moteurs de tondeuse à gazon universel. Où Brig & Stratton me dit, sachant que vous n'aurez jamais un prix littéraire dans la maison à laquelle vous vous trouvez, nous avons décidé de vous offrir cette année le prix Brig & Stratton, dont le lauréat reçoit la tondeuse Snapper qui arrive à la maison. Vous imaginez le truc, quoi. Encore le travail à travers... quand même un jeu. C'est un jeu, ça. C'est un truc d'enfant. C'est je t'offre une Dinky Toys parce que je t'aime bien. Et je rentre dans ce métier toujours par ces biais-là.
Jean-Paul Dubois, on va rappeler qu'à partir de ce livre, Éloge du gaucher dans un monde de manchots, qui vous permet de décrocher le jackpot par ses ventes, vous vous mettez à écrire un livre par an. Avec la régularité du métronome, vous allez publier « Tous les matins, je me lève » en 1988, « Maria est morte » en 1989, « Les poissons me regardent » en 1990, « Vous aurez de mes nouvelles » en 1991, « Parfois je ris tout seul » en 1992, etc. Et dans tous ces livres, ou en tout cas dans un certain nombre d'entre eux, il y a effectivement la figure totémique de la tondeuse. Pourquoi cet objet ?
Ben parce que si vous regardez autour de vous, vous verrez un champ qu'il faut tondre en permanence à partir du mois de mars, et que j'ai découvert qu'en fermant la première tonte, c'est un bonheur. Il y a une odeur qui est... C'est exceptionnel. C'est l'odeur, je vais pas faire du pagnol, mais c'est du regain, quoi. C'est le regain. C'est une odeur... Vous avez de tout. Vous avez l'herbe, vous avez toutes ces composantes. Vous avez les oignons qui commencent... Les oignons sauvages qui commencent à sortir. Tout ça est mélangé, c'est un truc... J'adore tondre. J'ai mis ça dans tous les... Au début, maintenant c'est fini depuis des années, je mettais ça dans tous les livres, ce moment-là. Et un jour, Vincent en a eu marre, il me dit, tu me fais chier avec ça. Maintenant, t'en as une grosse, t'en as une énorme, tu vas jouer avec et t'en parles plus. Voilà. Mais vous voyez, les livres se font toujours avec la vie. Voilà. Je pense que si vous ne vivez pas quelque chose, c'est très dur. Enfin, quand vous vivez, je veux dire... Fort heureusement, il ne m'est pas arrivé tout ce qui arrive à tous les narrateurs de mes livres. Mais il faut les approcher, il faut approcher tout ça. Et je pense que pour moi, il y a mille façons d'écrire, mais je ne saurais jamais écrire si je ne vivais pas en amont. Voilà. C'est le combustible, c'est ça. C'est tous les gens que vous allez croiser, tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce que vous... La mémoire, qui est un truc, est une machine. C'est un outil, moi. C'est comme... c'est plus précieux qu'un ordinateur, quoi. La mémoire qui remonte à l'enfance, les détails que vous stockez, les émotions que vous avez gardées, toutes les plus petites choses qui vont faire que vous allez écrire autre chose qu'une histoire toute simple, avec un début, un milieu, une fin. C'est qu'à un moment, vous allez... arriver à attraper, c'est comme en musique, c'est exactement pareil. Il y a un moment, vous savez pas pourquoi, vous jouez, et il y a un moment où vous chopez cet instant où vous vous prenez pour le type que vous ne serez jamais. C'est-à-dire un type qui joue quelque chose de joli, de beau, d'émouvant. Voilà.
Alors la vie, elle est aussi autour de nous. Il y a Watson, votre chien, qui va, qui vient. Voilà, on l'entend un petit peu. Et vous parlez de la mémoire, Jean-Paul Dubois. Elle compte plus que l'imagination.
Ah,
d'où
oui.
Vient l'inspiration?
De tout ce que j'ai vu, de toute la chance, tout ce que j'ai eu la chance de voir, de des gens que j'ai rencontrés. Je suis un buvard. J'ai eu la chance de capter tout ce qu'il y avait. J'ai aucune imagination. Je crois que j'en ai très très peu. J'ai une imagination de scénariste, c'est-à-dire que je vais imaginer un assemblage de choses. Mais ce que j'assemble, ça existe. C'est des gens. C'est pas forcément des... J'aurais du mal à... Ce que je faisais dans le journalisme, c'était la même chose. Je prenais des gens, bon, c'est qu'il y avait des histoires, et j'essayais de les envelopper, quoi, de leur donner le volume qu'ils méritent. Voilà. Quand vous avez une belle histoire, ça suffit pas. Il faut lui donner le volume qui... L'imagination... Moi, ça m'emmerde, l'imagination. Je trouve ça vachement pauvre. Dans ce sens que j'ai toujours l'impression de voir les coutures. Voilà. J'ai toujours l'impression de... Je ne dis pas que chez moi, ça, elle ne se voit pas, mais l'imagination est une fabrication de l'esprit. Et moi, j'aime bien l'écriture animale qui vient de la peur, de la joie, du bonheur, des larmes, du rire, Je pense à un livre que je parle malheureusement d'un de mes livres, mais bon, c'est pas du tout. C'est parfois je ris tout seul. Parfois ce livre, je l'ai fait en même temps que j'écrivais un autre. J'écrivais un livre très triste et en même temps, le soir, quand j'avais de l'avance, j'écrivais parfois je ris tout seul, qui sont des toutes petites nouvelles. Mais qui tiennent absolument pas debout, mais qui m'ont fait rire, qui me faisaient rire. Et c'était, elle me faisait tellement rire que j'appelais mon copain, quelle que soit l'heure le soir, je l'appelais, je lui lisais les nouvelles, la nouvelle que je venais de faire au téléphone, et on riait aux larmes tous les deux. Truc de gosse, ça ne vaut pas ça, je sais très bien, mais je m'en fous. C'est ça un livre, c'est, il tient aussi à mon copain. Ce livre-là, je le fais parce que je sais que à peut-être à 11h ou minuit, je vais l'appeler pour le faire rigoler, et que s'il rit, je vais être super content. Voilà. Imaginez une histoire. C'est pas... Un livre, il se fait avec cette mémoire-là, avec tout ce que vous ratez, tout ce que vous réussissez, tout ce que vous auriez voulu être et que vous ne serez jamais, sur l'échec. L'échec, c'est un moteur terrible. On peut pas imaginer l'échec. Qu'est-ce que vous voulez imaginer l'échec? L'échec, ça se vit. C'est phénoménal de vivre un échec. C'est un truc qui vous lacère, quoi. Vous sentez comme vous êtes jamais senti avant, un peu comme quand vous êtes amoureux, mais dans le cheminement inverse. Donc tous les sentiments, tout ça, c'est pas de l'imagination. L'imagination, moi j'aime pas l'imagination. C'est les trucs, ça me rappelle la scolarité. Imaginez que vous êtes, ou racontez-nous nos dernières vacances d'été. Là, ça arrivait en septembre. Ça. Alors là, on se mettait devant le truc, il fallait imaginer un truc. Qu'est-ce qu'on a fait cet été? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Et c'est catastrophique, quoi. C'est laborieux. C'est laborieux, parce que pour imaginer, à moins d'être... Il y a des mecs qui sont des génies de l'imagination, qui ont cette capacité à donner ce que moi, je dois aller ramasser, me baisser, ramasser et stocker. Eux, ils l'ont à foison. C'est pas du tout une critique, parce que moi, je sais pas imaginer. Je sais pas imaginer. Et je fais confiance au hasard qui vont faire un livre. Ça aussi, c'est fabuleux, la fabrication d'un livre. Et plus ça va, plus je le remarque, je le vois... Et Wikipédia, entre guillemets, est mon meilleur ami, quoi. C'est-à-dire que il m'apporte rien, il va pas me raconter une histoire. Mais dans l'histoire, il va me dire, hé, regarde, lis jusqu'au bout. Il y a quoi? Il y a 150 lignes à lire. Lis jusqu'au bout et lis jusqu'à la 125e. Tu vas voir, à la 125e, il y a un truc qui va te plaire. Et chaque fois, je découvre un truc. C'est pas phénoménal, mais pour moi... C'est le petit plus qui va me stimuler, qui va me dire « Ah oui, il y a ça aussi, voilà. » Et on rajoute ça, et on fait... C'est l'inverse d'un devoir, quoi, un livre. Voilà, c'est pour moi, c'est l'inverse d'un devoir. C'est l'inverse de l'école, c'est l'inverse de l'apprentissage. C'est quelque chose que vous devez digérer, quoi. C'est une macération, une digestion, et tout ça, j'ai une image que je dis toujours, la vie, c'est un vase rempli d'eau. Au fond, il y a la vase. Au-dessus, il y a l'eau claire. C'est là où on a l'habitude de vivre. Puis tu prends le vase, tu le renverses comme ça. Et puis maintenant, tu vas aller regarder tout ce qui est en suspension. C'est ta vie. Et gratte, regarde bien là-dedans, tu vas trouver des trucs qui vont être formidables ou qui vont te bouleverser, que tu avais oublié.
Et quand vous commencez un livre, alors le 1er mars, je crois que le mois de mars,
ouais,
est
sauf le dernier.
Quand vous commencez un livre, donc le 1er mars ou d'autres, ou parfois d'autres moments, mais Jean-Paul Dubois, est-ce que vous avez déjà la trame? Est-ce que vous avez déjà toute l'intrigue, tout le récit en tête?
Bah, généralement, autrefois non. Plus ça va. C'est-à-dire que là, c'est des choses que j'ai une sale idée au départ. Toujours une. Ça part d'un sale truc. Et je vais le y penser. Mais je vais y penser peut-être pendant un an. Mais je vais pas penser qu'à ça du tout. Mais comme je dors mal la nuit ou que je dors peu, quand je me couche, c'est pas mal, ça c'est un truc. Et là, petit à petit, vont s'amalgamer des choses qui n'ont rien à voir au départ. Je le note pas, mais je l'ai dans un bout de la tête. Et puis le jour où ça démarre, le 1er mars, ça aussi, le 1er mars, c'est un jour. Oh, quelle angoisse! Si ce soir, il n'y a rien, c'est jamais arrivé, hein. Mais si ce soir, il n'y a rien, alors je m'y mets, et généralement, il faut que j'ai le titre, et souvent la dernière phrase. Si j'ai la dernière phrase, parce que je connais mon truc, je suis un peu rassuré. Mais c'est des trucs d'Indien, ça, c'est des trucs de gosse. c'est des trucs de marabout. Ce que je vous raconte là, c'est pas de la littérature, c'est des pratiques infantiles. Mais je me suis aperçu que mes pratiques infantiles me permettaient de faire des livres que des gens lisaient. Et je trouve ça miraculeux. Voilà. C'est comme si vous jouez au scalextric. Quand j'étais gamin, c'était mon obsession, le scalextric, les courses de voitures électriques, vous savez, les petits, voilà. Et tout d'un coup, on vous met aux 24 heures du Mans, on vous donne une F1, tu dis, maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas faire une vraie course. Ah non, si, tu vas y aller, tu vas voir. Tu peux. T'as l'habitude du scalextric. J'ai gardé cette naïveté, je crois, roublarde parfois, parce qu'il faut l'être. Enfin, roublarde, pas dans le mauvais sens du terme, mais en étant conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Mais je crois que la fabrique du livre, elle est aussi là-dedans, quoi. Il faut l'accepter. Moi, je ne sais pas faire autrement, donc je l'accepte. Mais souvent, je ne me reconnais pas dans la nature de ce que peuvent dire certains écrivains. Ça me paraît très intelligent, très intellectuel, très rigoureux, très structuré. Et j'aimerais être comme ça, comme j'aimerais être un pianiste. Pareil, c'est le même truc. J'aimerais être comme ça, mais je ne sais pas.
L'origine des larmes que vous publiez en 2024, c'est très structuré, autour d'un certain nombre de séances de psychanalyse.
Vous ne pouvez pas savoir, c'est le livre le plus compliqué, le livre le plus douloureux que j'ai eu à faire. Rien n'est fait là-dedans, jamais, chaque soir, tout fuit. Je ne sais même pas comment... Je sais que je vais faire le début, je sais comment je fais la fin, et je ne sais pas comment je vais y arriver. Et je trouve par miracle les séances de psy, je me dis, mais c'est tellement convenu, c'est trop con, tu vas appeler ça session, d'accord, mais enfin... Et tout est comme ça, et tout se fait par des bouts de ficelle, chaque jour, c'est un miracle, c'est pas du tout... C'est structuré a posteriori, parce que... Après, je me dis, ça tient debout. Mais j'ai la trouille que chaque fois que ça tienne pas debout, que mon mental ne soit pas transmissible à l'écrit, quoi. Que le fouillis que j'ai dans le problème, c'est que je ne suis pas intelligent. C'est ce que je ressens depuis que je suis môme. J'ai une tête d'animal qui a un instinct et qui se débrouille avec ça et qui essaie de se débrouiller et qui est toujours très intimidée par l'intelligence humaine, quoi, l'intelligence universitaire, scolaire. Je me sens très handicapé face à ce monde-là. Et les livres, c'est pareil, je me dis, c'est miraculeux, quoi. C'est beaucoup de chance, c'est toujours pareil. C'est beaucoup de chance. Je passe, voilà. Mais c'est du boulot. Parce que c'est un vrai, vrai boulot de faire ça. Ça a l'air de rien, 30 jours. Mais 30 jours comme ça, vous finissez. J'ai jamais fini un livre sans éclater un sanglot. Le truc du sportif, vous savez, le mec qui gagne la finale du championnat. Ouh, il a tellement...
La ligne d'arrivée.
Le truc, j'y suis arrivé. Parce que quand je commence un livre, j'ai toujours la conviction que je vais mourir avant de l'avoir fini. Depuis le premier, pour des raisons... sur lesquels on ne reviendra pas, mais vous dites toujours l'imminence. Donc, ça rôde. Tous ces trucs. Mais c'est pas un travail d'intellectuel, ça. Moi, quand je lisais... L'intelligence, c'est Debord, Van Hagen, des mecs qui manient les concepts et qui vous embrouillent d'une façon phénoménale au point que vous comprenez, mais vous ne savez pas quoi. C'est terrible, ça. Se sentir nul face à un texte que vous relisez 5, 6, 7 fois, dont vous comprenez chaque mot, mais dont l'ensemble vous échappe. C'est vachement humiliant. Moi, mais ça m'arrive encore de ressentir ça parfois en lisant des textes. Ça m'est arrivé hier soir. J'ai reçu un livre, 3 livres. Je les ai lus. C'est des tout petits livres. Hein. C'est beau. C'est tout ce que vous voulez et je ne comprends rien. Et là, je sais que c'est moi. Je ne peux pas dire c'est mal écrit, c'est nul. Non, je sais que c'est moi. Il me manque un truc. Il y a le chaînon manquant qui fait que je vais accrocher le wagon intellectuel plutôt que le wagon du bricoleur du dimanche, quoi.
Et en même temps, dans vos livres, vous parlez à notre intelligence. Vous avez un vocabulaire choisi, il y a beaucoup d'érudition, on apprend des choses. Vous donnez des clés d'un certain univers, avec par exemple ces ascenseurs qui ont donné leur forme aux villes, aux gratte-ciel.
C'est pas théorisé, je sais pas, je le sens, je le vois comme ça. L'histoire de l'ascenseur, c'est des choses... Je vois toujours ça, je le sens, mais je sais pas l'expliquer. Je vais pas faire un livre sur... J'ai lu des trucs sur les ascenseurs qui m'ont embrouillé à mort. Là, on rentre dans un truc compliqué qui est essayer de rendre intelligible quelque chose que l'on ne comprend pas soi-même. J'ai pas cette faculté. Je me débrouille autrement. Je me débrouille soit en faisant le pitre, soit en faisant le... Mais c'est sérieux, un bouquin, en plus. Moi, je le prends pas par-dessus la jambe. Hein. Parce que souvent, je dis, je le fais en 30 jours. Tu sais, les mecs, ils disent, ouais, c'est un branleur, il gagne sa vie, il travaille un mois par an. Oui, enfin bon, c'est une façon de voir la vie et de voir les choses. Mais je pense que dans les 11 mois qui restent, je travaille beaucoup plus que la plupart des gens. Parce que je fais des travaux pénibles, je me les inflige. Hein. Je me plains pas du tout. Mais c'est la notion du travail subi n'est pas du tout la même que la notion du travail accepté ou désiré. Moi, il y a des travaux que je désire. Là, j'ai refait deux maisons, deux petites cabanes, je les ai repeints, c'est que ça m'a pris 15 jours, je suis content, ça me plaît, c'est un truc, c'est ma vie, ça. Ça, c'est ma vie. Quand je fais les livres, c'est presque des vacances physiques, mais pas intellectuelles. Il y a deux types qui travaillent. Il y a un type qui travaille avec ses mains, sa réflexion, ses outils et tout, et l'autre qui est assis et qui va essayer d'assembler tout ce que le type a appris pendant 11 mois à propos de choses qui n'ont pas l'air importantes, mais qui fabrique un monde. Et l'autre, il va essayer de dire, oui, ça, on peut en faire quelque chose. Je vais essayer de... T'as fait ça, je vais essayer de l'expliquer. T'as souffert de ça, je vais essayer de le rendre tangible. C'est un gros boulot pour que les deux communiquent et que le deuxième arrive à présenter quelque chose d'acceptable. Quoi.
Merci beaucoup Jean-Paul Dubois. À demain pour continuer à parler de votre travail d'écriture.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Corinne Renoux-Nativelle, disponible sur le site et l'application de Radio France.